Alors, chapitre 3, donc ce sont les pères de l'Église de l'Antiquité tardive. Comme on dit en allemand, c'est le Spätantike. Spätantike. Alors, je parle sous le contrôle d'un étudiant de théologie de l'Institut catholique de Paris. Là, c'est un... Donc, comment on dit en allemand, un Fachmann, hein, c'est ça, un spécialiste. Alors, donc, les pères de l'Antiquité tardive, je commence par une introduction. Alors, donc, ce qui est intéressant de voir, et ça, on le voit de plus en plus dans les études patristiques, ont tendance à gommer la division culturelle latine-grecque au profit de l'unité, enfin, disons, la distinction linguistique latin-grec, au profit de l'unité culturelle de l'Empire. Un empire unique avec des régions qui sont hellénophones ou latines. Voilà. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain point, puisqu'il va y avoir quand même dans l'Église une rupture de l'unité linguistique au tournant du IVe siècle, qui va faciliter la rupture de l'unité politique au Ve siècle. Alors, au Ve siècle, on voit bien pourquoi. Hein, parce que la partie occidentale de l'Empire éclate en une multitude de royautés germaniques. Dans le meilleur des cas, les princes avaient été otages à Rome et savaient du latin, comme par exemple Clovis, mais ils ne savaient quand même pas le grec, hein. Voilà, rarement. Donc les deux parties de l'Empire vont suivre chacune leur voie, et l'essai de réunification du grand empereur Justinien au VIe siècle restera sans lendemain. Justinien s'est épuisé toute sa vie à remettre les deux parties de l'Empire, à réunifier l'Empire. Et en fait, voilà, les différences étaient devenues tellement importantes que ça n'a pas eu de lendemain. L'Orient ne va cesser de se contracter sous la pression de l'islam dès le 7e siècle, qui va lui piquer ses provinces les plus riches, l'Égypte par exemple, la Syrie, tout ça. Sous la pression aussi des envahisseurs barbares, en particulier les Bulgares, qui vont être des ennemis implacables de l'Empire d'Orient, au moins pendant un temps, jusqu'à leur conversion, disons, même un peu après. Donc l'Empire d'Orient ne va cesser de se contracter tout en conservant une structure politique et sociale héritée de l'Antiquité, alors que l'Occident va muter, si l'on peut dire, sous l'influence du grand remplacement. Des élites, hein, qui aboutira à leur fusion notamment en Gaule, et qui produira sous la forme d'un empire romain redivivus un monde nouveau, original, celui du Moyen-Âge, et disons du haut Moyen-Âge, hein, dont je vous disais l'autre fois que le haut Moyen-Âge commence à des périodes diverses selon les régions. Alors quand je parle du grand remplacement, je dis c'est la couche d'huile germanique sur le verre d'eau gallo-romain, hein, parce que les peuples germaniques, c'était vraiment quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers d'individus. Mais comme c'était des guerriers efficaces, évidemment, ils sont devenus l'aristocratie occidentale, fusionnant avec l'aristocratie sénatoriale ou gallo-romaine antérieure. Hein. Alors, sur le plan doctrinal, les auteurs et leurs écrits se font l'écho, sinon les protagonistes, des grandes controverses doctrinales, essentiellement christologiques, du 6e au 8e siècle. Hein, on a encore des grandes. On pourrait se dire que tout a été clarifié avec les conciles du 5e siècle. Eh bien non, on aura encore des discussions, surtout christologiques. Alors d'abord avec les conciles d'Éphèse, Chalcédoine au 5e siècle, puis Constantinople II en 553, Constantinople III en 680 et 683, et Nicée II en 787, hein, le fameux concile qui mettra fin à la crise iconoclaste en Orient. Nicée II, 787. C'est un Boeing qui a ce numéro-là, je sais pas. Alors, si la littérature orientale reste surtout traditionnelle et compilatoire, si on peut dire, la littérature latine va ouvrir la voie à une ère nouvelle. Hein, elle va vraiment faire passer de l'Antiquité au Moyen Âge. Alors, commençons par la première section, les pères et les grandes controverses christologiques. Voyez, les grands conciles christologiques du 5e siècle sont postérieurs à la mort de Saint-Augustin. On a l'impression que Saint-Augustin, c'est. Enfin, on a l'impression, j'ai l'impression, que Saint-Augustin a déjà toute la doctrine chrétienne sous les yeux, et puis voilà, il l'élabore. En fait, Éphèse, Chalcédoine, qui vont donner le là en matière de christologie, sont célébrés après la mort de Saint-Augustin. Hein. Donc Saint-Augustin, encore à une période où toute la dogmatique se cherche. Hein. Bon, alors donc, ces grandes controverses vont portent essentiellement sur la christologie, alors que au IVe siècle, on était encore sur la question disons, de la Trinité. Alors, aussi de la christologie, puisque la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est quand même incarné. Alors, premier paragraphe, autour d'Éphèse et de Chalcédoine. Alors, on a tout d'abord Saint Cyrille d'Alexandrie contre Nestorius. Alors, qui est Nestorius? Aujourd'hui, il a été un peu réhabilité. Alors, petit tas Nestorius, il est né en 381. J'ai oublié la date de son décès. Alors, il a peut-être été, on ne sait pas bien, il a peut-être été élève de Théodore de Mopsueste, vous savez, un de ces comment dire, représentants de l'école d'Antioche en exégèse. Il y vécut comme moine et comme prêtre à Antioche. Et en 428, il est nommé patriarche à Constantinople. Un patriarche religieux, hein, vous voyez, hein, parce que parfois on prenait un énarque et puis on en faisait un patriarche du jour au lendemain. Ça arrivait, hein, souvent l'empereur prenait un de ses hauts fonctionnaires, et puis, hop, en l'espace d'une semaine ou deux semaines, il les recevait tous les ordres, et il se retrouvait dans le même bureau, quasiment, mais avec une mitre sur la tête. Alors, dans son grand zèle à maintenir la pureté de la foi, Nestorius refusait le titre populaire de Théotokos à la Vierge Marie pour des raisons christologiques. Donc, Théotokos, mère de Dieu. Alors, le brave peuple de Constantinople disait que Marie était mère de Dieu. Mais Nestorius trouvait ça ridicule et même hérétique, puisque Dieu n'a pas de mère, ni de père d'ailleurs.
Alors ça représentait quoi pour lui, la Vierge Marie ?
La mère du Christ. Et voilà, d'où le problème. La mère du Christ, la mère de l'homme Christ, ou la mère de l'homme Christ dont l'âme et dont la substance, enfin la deuxième personne de la Trinité, voyez. Donc c'était toute la question est là. Puisque Dieu ne naît pas, Marie ne pouvait être dite seulement que la mère de Jésus, voyez, c'est-à-dire la mère de l'homme Jésus. Et non du Fils. Mais du coup, on voyait à ce moment-là apparaître une sorte de division, enfin de coexistence entre d'un côté le Fils et de l'autre côté ce Jésus, plus ou moins lié au Fils. Vous voyez, la relation de Jésus, enfin du Fils, enfin du Verbe, à Jésus est un peu comme la relation de l'âme au corps dans la philosophie de Descartes. Il y a un moment, il y a une sorte de petit nœud entre les deux, et puis, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de dualisme entre le Verbe, le Fils, et le Christ. Donc, qu'elle soit la mère du Christ, c'était une évidence, hein, que ce soit la mère du Fils, ça lui paraissait aller au-delà du possible. Mais il recusait aussi l'appellation d'anthropotokos, de mère du Fils, de mère de l'homme, qui aurait nié l'unité des deux natures dans le Christ. Alors il proposa une autre expression, Théodokos, celle qui accueille Dieu, ou encore Christotokos, la mère du Christ, c'est-à-dire de l'homme uni à Dieu. Mais vous avez du coup comme l'idée d'un homme qui serait uni, alors par la glande pinéale, comme dirait Descartes quand il parle de l'âme et du corps, donc par un truc mystérieux, une sorte de petit nœud mystérieux entre l'homme et le Verbe. Et donc, vous voyez quand même plutôt une coexistence de deux êtres. Et pas très éloigné, finalement, des théories plus anciennes de l'adoptionnisme, où, en fait, un homme est adopté par Dieu, le Fils, pour une certaine mission. Donc, voilà un petit peu la position de Nestorius au nom de, je dirais, de la pureté de l'étymologie. Pourquoi ça lui paraissait excessif de dire que Marie était la mère de Dieu. Mais vous voyez que le problème, c'est qu'il tombe dans une sorte de parallélisme, enfin de coexistence entre deux principes dont l'unité est difficile à préciser.
Et Marie, mère de Dieu, était. C'était un statut qu'elle avait plus tôt, enfin, je veux dire.
Comment ? Oui, c'était.
C'était à partir de quand ?
De on pourrait dire presque d'une manière immémoriale, dans la piété populaire.
Donc il s'opposait à quelque chose qui avait...
Parce que pour lui, c'était une sorte de superstition qui risquait d'aboutir à une hérésie.
Mais dans la théologie actuelle de certains catholiques, même un évêque disait « Marie n'est pas une déesse, Marie est simplement une femme.
Enfin, » Ah oui,
j'ai
exactement.
Entendu dire, je ne dirais pas le nom de cet évêque.
Mais oui, mais remarquez, il n'a pas tort, elle n'est pas déesse non plus. Mais elle est réellement humaine, mais la solution des conciles du 5e siècle sera de dire qu'elle est la mère, selon l'humanité, du Verbe de Dieu incarné. Donc il y a une unité hypostatique, comme on dira, entre le Verbe et son humanité. Alors certains vont dire la divinité du Christ... tient lieu d'âme et donc par conséquent elle fait subsister juste un corps comme notre âme fait subsister juste un corps, mais à ce moment-là c'est pas une humanité totale, parce que si on n'a pas d'âme humaine, on n'est pas vraiment homme. Donc il faut dire que y a la divinité fait subsister une humanité intégrale, c'est-à-dire âme et corps. Alors, j'anticipe sur la solution. Alors, revenons à la position du problème. Donc, une affirmation populaire, le patriarche de Constantinople considère qu'elle peut être interprétée de manière hérétique, et donc propose une solution plus en retrait, sans se rendre compte que sa solution revient finalement à une autre hérésie qu'il ne voit pas. Alors, comme à l'époque, on avait quand même, surtout en Orient, on avait la tête près du bonnet, hein, comme on dit, les gens, au lieu de se discuter tranquillement, vont commencer à se craper le chignon. Et ça ne va pas faciliter la recherche de la solution. Et notamment, celui qui va réagir le plus vivement, c'est celui qu'on a appelé le grand pharaon d'Égypte. Cyril d'Alexandrie, je vous avais déjà dit souvent que Saint Jérôme avait été canonisé malgré sa son mauvais caractère. On pourrait dire de Saint Cyril d'Alexandrie la même chose, puissance 2 au moins. Alors, Cyril était né entre 370-380, donc vous voyez, il est le plus ou moins le contemporain de Nestorius. Et il succède en 412 au patriarche d'Alexandrie, dont il était le neveu d'ailleurs. Comme le dit Manlio Simonetti, qui est un patrologue italien, il hérita de son oncle non seulement son pouvoir et ses ambitions, mais aussi son énergie, son savoir-faire politique et sa dureté à l'égard de ses adversaires, avec l'absence de tout scrupule. C'est lui qui, par exemple, a entretenu le fanatisme à Alexandrie envers les juifs et les païens, aboutissant notamment au meurtre de la fameuse philosophe Hypatie, qui nous a valu peut-être il y a une dizaine d'années, je me souviens encore, une quinzaine d'années, une de ces machines de guerre hollywoodiennes contre le catholicisme. Il y a eu un film sur Hypatie, qui était en plus présenté, alors évidemment, comme une sainte. Et puis que les chrétiens de l'époque étaient des...
C'est la sainte, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc c'était une païenne qui faisait profession de philosophie et qui a été massacrée par la populace, populace chrétienne, avec l'assentiment du patriarche. Comme du reste, les pogroms de juifs se sont multipliés aussi à cette période. Il faut dire aussi quand même que le tiers d'Alexandrie était... peuplé de juifs. Bon, c'est pas une raison. Bon. Alors, le concile de Constantinople Ayant hissé précisément Constantinople au deuxième rang des sièges, Alexandrie se voyait rétrogradée au troisième, ce qui évidemment n'a pas plu à Cyril, qui profita de la maladresse de Nestorius pour attaquer le deuxième siège, le néo-deuxième siège, pour le déconsidérer. Et alors vous voyez que dans la réaction de Cyril d'Alexandrie au nom de l'orthodoxie contre l'hérésie, il y a quand même le désir politique de reprendre la main sur Constantinople.
Rome-Constantinople ?
Oui, Rome. Rome-Alexandrie. Et puis il y avait Antioche plus tardivement Jérusalem. Et puis alors Constantinople, qui n'est devenu patriarcat que parce que le siège de impérial s'est transféré là. Hein. Donc, tout commence par un échange de lettres entre Nestorius et Cyril sur leur christologie respective. Et les deux parties se tournent vers Rome. Vous voyez, quand même, c'est intéressant de voir que à l'époque, les papes de Rome sont des grands inconnus. Hein. Quand Innocent Ier, on lui pose une question, il dit « Regardez ce que dit saint Augustin hein. ». Donc, en fait, ce qui compte, c'est Rome. Ce n'est pas tellement le tenancier, si j'ose dire, de la basilique, mais qui est en construction d'ailleurs à cette époque, mais c'est le siège. Donc même si c'est un personnage de second ordre, voire de troisième ordre, ce qui compte, c'est qu'il occupe le siège de Rome. Alors il se tourne vers Rome, et le pape Célestin finalement se décide pour la position de Cyril. Donc plus traditionnel, mère de Dieu. Alors, du coup, Cyril fait convoquer un concile qui, comme par hasard, se réunit avant l'arrivée des délégués de l'Occident et du siège d'Antioche, dont Nestorius était originaire, bien sûr. Si bien que Nestorius est déposé et condamné par un synode composé quasiment que d'évêques égyptiens. Alors, les Antiochiens arrivant sur ces entrefaites, ouvrent leur propre concile avec cette fois l'appui du commissaire impérial qui condamne Cyril. Donc, d'un côté, il y a un concile essentiellement composé de suffragants de Cyril qui dépose le patriarche de Constantinople. Et ensuite, d'autres délégués de l'Occident, de l'Orient, c'est-à-dire de Constantinople, d'Antioche, avec le commissaire impérial venant de Constantinople, qui évidemment le commissaire impérial, lui, il a tendance à être partisan de son patriarche, et donc qui dépose Cyril.